Mais dans la courte période de son règne, moins d'un an, les espérances des spirituels furent toutes réalisées. Ils se rendirent auprès de Célestin qui fonda avec eux la communauté dite des Fratres et Pauperes Eremitae Domini Celestini. D'autre part, alors que le pape devait jouer le rôle de médiateur entre les plus puissants cardinaux de Rome, il y en eut certains comme un Colonna et un Orsini qui secrètement soutenaient les nouvelles tendances de pauvreté. Choix en vérité fort curieux pour des hommes immensément puissants qui vivaient agréablement au milieu de richesses démesurées. Et je n'ai jamais compris s'ils se servaient des spirituels pour leurs fins politiques ou bien si, en quelque sorte, ils se considéraient justifiés dans leur vie charnelle du fait qu'ils soutenaient les tendances spirituelles. Et sans doute y avait-il du vrai dans les deux cas, pour le peu que je comprends des choses italiennes. Mais précisément, en guise d'exemple, Hubertin avait été accueilli comme aumônier du cardinal Orsini lorsque, devenu le plus écouté des spirituels, il courait le risque d'être accusé comme hérétique. Et le cardinal lui-même lui avait servi de bouclier en Avignon. Cependant, comme il arrive en de tels cas, d'un côté Ange et Hubertin prêchaient selon la doctrine, de l'autre de grandes masses de simples acceptaient cette prédication et se répandaient à travers le pays, au-delà de tout contrôle. C'est ainsi que l'Italie fut envahie par ces fraticelles, ou frères de la vie pauvre, que beaucoup jugèrent dangereux. Il était désormais malaisé de distinguer les maîtres spirituels qui gardaient le contact avec les autorités ecclésiastiques et leurs partisans les plus simples, qui simplement se trouveraient dorénavant en dehors de l'ordre, demandant l'aumône et vivant au jour le jour du travail de leurs mains, sans s'approprier absolument rien. Ce sont là ceux que la rumeur publique appelait désormais « fraticelles », peu différents des béguins français qui s'inspiraient de Pierre de Jean Olivier. Célestin V fut remplacé par Boniface VIII, et ce pape se hâta de manifester une très faible indulgence pour spirituels et fraticelles en général. Tout juste dans les dernières années du siècle, touchant à sa fin, il signa une bulle « Firma Cautela » dans laquelle il condamnait en vrac Bisoche, quêteurs errants qui gravitaient à la limite extrême de l'ordre franciscain, et les spirituels même, autrement dit ceux qui se retranchaient de la vie de l'ordre pour s'adonner à la vie hérémitique. Les spirituels tentèrent ensuite d'obtenir l'accord d'autres pontifes, comme Clément V, pour pouvoir se détacher de l'ordre d'une manière non violente. Je crois qu'ils y auraient réussi, mais l'avènement de Jean XXII leur ôta tout espoir. En 1316, quand il fut élu, il écrivit au roi de Sicile pour qu'il expulsât ses frères hors de ses terres, car nombre d'entre eux s'étaient réfugiés là-bas, et il fit mettre au fer Ange Clarino et les spirituels de Provence. Ce ne dut pas être une entreprise facile, et beaucoup s'y opposèrent dans la curie. Le fait est qu'Hubertin et Clarino obtinrent de décider librement d'abandonner l'ordre, et ils furent accueillis l'un par les bénédictins, l'autre par les célestins. Mais pour ceux qui s'obstinèrent à mener leur vie en toute liberté, Jean fut impitoyable et les fit persécuter par l'Inquisition. Beaucoup furent brûlés. Il avait cependant compris que pour détruire l'ivraie des fraticelles qui minaient à sa base l'autorité de l'Église, il fallait condamner les propositions sur lesquelles ils fondaient leur foi. Eux, ils soutenaient que Christ et les apôtres n'avaient eu aucune propriété ni individuelle ni communautaire. Et le pape condamna comme hérétique cette idée. Chose stupéfiante, parce qu'on ne voit pas pour quelle sorte de raison un pape se doit de juger perverse l'idée que Christ fut pauvre. Mais c'est que précisément un an auparavant avait eu lieu le chapitre général des franciscains à Pérouse, qui soutenait cette opinion. Et en condamnant les uns, le pape condamnait l'autre aussi. Comme je l'ai déjà dit, le chapitre portait grand préjudice à sa lutte contre l'empereur. C'est un fait. Ainsi, depuis lors, de nombreux fraticelles, qui ne savaient rien ni de l'Empire ni de Pérouse, moururent brûlés. Je pensais à ces événements en observant un personnage légendaire comme Hubertin. Mon maître m'avait présenté, et le vieux m'avait caressé une joue d'une main chaude, presque ardente. Au toucher de cette main, j'avais compris beaucoup de choses que j'avais entendues sur ce saint homme et d'autres que j'avais lus dans les pages d'Arbor Vitae. Je comprenais le feu mystique qu'il avait dévoré depuis sa jeunesse, quand, tout en étudiant à Paris, il s'était détourné des spéculations théologiques et avait imaginé être transformé en la pénitente Madeleine. Et le lien si intense qu'il avait eu avec la Sainte Angèle de Foligno, par qui il avait été initié au trésor de la vie mystique et à l'adoration de la croix, et pourquoi un jour ses supérieurs, préoccupés par l'ardeur de sa prédication, l'avaient envoyé en retraite à l'Averna. Je scrutais ce visage, aux linéaments très doux, comme ceux de la sainte avec laquelle il avait été en fraternel commerce de sens au plus haut point spiritualisé. Je devinais qu'il devait avoir su prendre des traits bien plus durs, quand en 1311, le concile de Vienne, avec la décrétale « Exivi de Paradiso », avait éliminé les supérieurs franciscains hostiles au spirituel, mais avait imposé à ceux-ci de vivre en paix au sein de l'ordre, et que ce champion du renoncement n'avait pas accepté le prudent compromis et s'était battu pour que fût constitué un ordre indépendant, inspiré du maximum de rigueur. Ce grand combattant avait alors perdu sa bataille, parce qu'en ces années-là, Jean XXII se faisait l'apôtre d'une croisade contre les disciples de Pierre de Jean-Olivier, au nombre desquels il se trouvait, et condamnait les frères de Narbonne et de Béziers. Mais Hubertin n'avait pas hésité à défendre face au pape la mémoire de son ami, et le pape, subjugué par sa sainteté, n'avait pas osé le condamner, lui, même s'il avait ensuite condamné les autres. Mieux, en cette occasion, il lui avait offert une issue pour se sauver, d'abord en lui conseillant et puis en lui ordonnant d'entrer dans l'ordre clunisien. Hubertin, qui devait être tout aussi habile, lui apparemment si désarmé et fragile, à se gagner protection et alliance à la cour pontificale, avait certes accepté d'entrer dans le monastère de Gemblach, dans les Flandres, mais je crois qu'il n'y était jamais allé, et qu'il était resté en Avignon, sous les armes du cardinal Orsini, pour défendre la cause des franciscains. Dans les derniers temps seulement, et les bruits qui couraient manquaient de précision, sa fortune à la cour avait décliné. Il avait dû s'éloigner d'Avignon, tandis que le pape faisait poursuivre cet homme indomptable comme hérétique, qui « per mundum discurit vagabundus ». De lui, disait-on, on n'avait plus trace. Dans l'après-midi, j'avais appris, en suivant le dialogue entre Guillaume et l'abbé, qu'il était maintenant caché dans cette abbaye. Et à présent, je le voyais devant moi.